c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business, un nouveau direct aujourd'hui sur 102.3 depuis nos studios de Coulonnier-Chabier en banlieue de Périgueux dans le Périgord. RLP Business, oui, je vous ai un tout petit peu censuré le jingle alerte canicule, mais n'oubliez pas de vous hydrater pour protéger les autres et pour boire à leur place, c'est extrêmement important, surtout qu'il fait actuellement extrêmement chaud. Alors, aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat, entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un cousin, un ami d'enfance, un cousin qui vient de nous sortir une médaille d'or du concours international 1001 dégustation à Lyon en décembre dernier avec son gin 11DT. T comme la boisson, c'est Marien Beaugrand de la distillerie 11 qui est en direct de Bretagne. Marien, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, alors Marien, quand vas-tu? Il n'est pas trop chaud chez vous là-bas, ça va?
On a dépassé les 40, on est bien.
Oui, mais t'es en bord de mer là-bas.
Ça va.
Et puis j'ai cru. J'ai pu comprendre qu'au moins chez toi, il y avait de quoi boire.
Effectivement, la Bretagne est une belle terre de boissons, que ce soit le cidre, le lambic, et même toutes les petites choses qui commencent à se développer dans le coin.
On va en parler. Bon, alors, Alors, écoute, toi, c'est intéressant parce que tu as un parcours qui est vraiment intéressant, en fait, tu vois. On se ressemble un peu sur ça. Tu es originaire de l'Est de la France, ou on va dire le Grand Est et autres. Tu as vécu à Paris. Oui. Que tu as fui pour aller en Italie durant un certain temps. Tu es revenu en France vers 2000. Tu es revenu en quelle année? Tu m'as dit en France là vers.
Je suis revenu en 2017, mais là c'était du Cameroun pour le coup, car on allait devenir parents et ma femme clairement a dit je préfère accoucher en France qu'en milieu de la brousse au Cameroun.
Oui, c'est un choix. Mais ah oui, j'avais oublié, effectivement, t'es aussi allé au Cameroun. Donc t'as vu, moi je suis allé en Thaïlande, toi t'es allé au Cameroun. Donc t'as vraiment cet enrichissement multiculturel, là, cette vision qui nous sert hein, dans la vie, hein, quand on parle aux gens, quand on crée. C'est intéressant d'aller voir un peu comment font les autres.
Je pense que c'est fondamental, effectivement.
Oui, ça on le dira jamais assez. Et très souvent, on n'est pas les mêmes après qu'avant. Tout de suite, bon, je te connais un petit peu, hein, t'es dans un endroit où on pouvait faire en sorte qu'on te laisse plus ou moins tranquille, dans des domaines de niche, tu vas être très orienté, ta propre production, faire du bio, du naturel, ce genre de choses. Et la distillerie 11. Alors, explique-nous comment on crée une distillerie, comment t'as fait et qu'est-ce que la distillerie 11 ?
Ok, une petite genèse rapide.
Vas-y.
Déjà, je ne me destinais pas vraiment à ça, dans le sens où toute ma vie professionnelle était orientée dans des domaines bien différents. En fait, tout est parti d'un cadeau d'anniversaire où la distillerie de Plogoff, Moby Dick, faisait des formations. Et j'ai eu la chance d'avoir ça comme cadeau d'anniversaire. Et c'était une période de transition dans ma vie perso et pro. Et au final, ces 3 jours de formation ça a créé une vocation. Je me suis vraiment pris au jeu. Très sympa, très bien fait. Pas forcément complet. On ne peut pas devenir distillateur en seulement 3 jours. Hein, bien sûr, après, derrière, il faut prendre pas mal de choses. Il faut se documenter et il faut faire ce qu'il faut pour savoir un petit peu comment ça se passe. Mais concrètement, c'est parti de ça.
D'accord. Alors, concrètement, tu as trouvé un local que tu partages avec... Donc toi, en fait, c'est intéressant, t'es aussi dans le coworking quelque part. Vous vous êtes mis à plusieurs quelque part avec des métiers complémentaires.
Tout à fait. Alors là, il y a 2 choses qui rentrent en ligne de compte. Une, c'est ma volonté perso de collaboration. Ça a vraiment été toute ma vie professionnelle. J'ai beaucoup travaillé dans l'associatif, justement dans la coopération internationale. Le but, c'était pas de me retrouver tout seul dans un coin. Il y a un autre côté beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire que moi, je suis sur Concarneau, très cher. Le pas de porte me faisait doubler, voire tripler mon budget global.
D'accord.
Donc à un moment donné, s'est posé très vite la question de où et comment.
Alors on va rappeler aux gens, hein, le pas de porte, c'est uniquement le fait d'avoir la devanture et puis l'entrée du magasin. Rien que ceci peut se négocier quelques centaines de milliers d'euros pour avoir le droit d'ouvrir un magasin, et ça se revend d'une personne à l'autre, et quelque part il y a un frein à l'entrée lorsqu'on veut se lancer.
Tout à fait. Alors on a aussi une belle saisonnalité sur Concarneau, dans le sens où voilà, on a eu pas mal d'afflux de touristes en été, et les locaux sont majoritairement dans le centre-ville, qui est vraiment le lieu de passage des touristes. Donc, j'imagine que les prix pratiqués sont en correspondance avec le potentiel commercial, mais toujours est-il que c'était pas à ma portée.
Oui, bon. Donc, un local, coworking, avec qui es-tu ?
Alors, je suis avec la brasserie Microbras, donc du 5 ans d'activité, Loïc Legal pour son petit nom, qui s'est associé avec Lucille Denois, qui est elle cuisinière, qui fait actuellement surtout des gammes de produits déshydratés, fruits, légumes, des petites poudres assez sympas, que ce soit visuellement ou gustativement, et deux artistes, Abby Parr et Anne Gevel.
D'accord. Et donc, toi, tu as fait la distillerie 11. Toi, tu fais donc, on lui fait de la bière, toi, tu fais du gin, des liqueurs, des spiritueux. Qu'est-ce que tu fais encore ? Du rhum ?
Du rhum, tout à fait. Un petit rhum breton. Il n'y en a pas 50 et ça fait toujours plaisir. Ça reste une des boissons emblématiques.
Ouais. Et là où j'étais très surpris, c'est effectivement le gin. Alors, avant d'aller sur le détail des produits de ta gamme, tu as dû investir un peu. Il y a du matériel à acheter, il y a du fonds de roulement. Tu as créé. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ?
Alors concrètement, mon parcours il est un petit peu particulier dans le sens où à ce moment-là, je faisais partie d'un parcours d'accompagnement de France Active. J'en ai profité pour leur dire, tiens, est-ce que ça serait possible de m'accompagner justement dans la création de ça, de ce petit projet de distillerie pour justement accéder à un prêt personnel pour financer une partie, donc prêt à taux zéro pour le coup. C'est comme ça que c'est parti. Ça a permis justement d'avoir l'apport auprès des banques pour justement débloquer d'autres choses. Et voilà, c'est à peu près ça.
Bon, la distillerie, on en a parlé avant, tu m'as autorisé à le dire. Tu as mis 30 000 balles sur la table, grosso modo, pour lancer avec le matériel, les stocks et autres. Donc, 30K pour démarrer. Et est-ce que tu savais tout de suite quelle sorte de produit tu allais faire ?
Alors, vu que j'ai un petit peu de suite dans les idées quand même, malheureusement, voilà, la distillation et la vente d'alcool en général est déréglementée par les douanes, et donc on ne peut pas, sans avoir l'aval de la douane, créer de l'alcool, produire et en vendre. Mais il existe des petites choses qui sont assez sympas, comme par exemple ce qu'on appelle un évaporateur rotatif. C'est le même dispositif qu'un alambic, mais ça va travailler sous vide. C'est un matériel de laboratoire concrètement qui fait le même boulot. Et là, on n'est pas sujet à douane. C'est-à-dire qu'on a le droit d'acheter par exemple de l'alcool en supermarché qui est déjà, les taxes sont déjà payées, le réutiliser pour créer des recettes. Et c'est ce que j'ai fait concrètement, qui m'a permis d'avoir justement une petite base de travail assez sympathique, notamment sur le gin, principalement sur le gin, pour pouvoir arriver au jour J, à l'ouverture de la distillerie, avec quelque chose qui tenait la route, on va dire, au niveau des produits.
Alors, je vois qu'effectivement, tu as une spécialisation dans le gin. C'est même là que tu as eu ta médaille d'or. Alors, rappelle-nous, le gin, quel type d'alcool est-ce que c'est ? D'où ça vient ? C'est à base de quoi ? Comment ça fonctionne ?
Alors, originairement, il vient de Hollande. C'est eux qui l'ont inventé. C'est très vite passé de l'autre côté, sur les îles britanniques, et principalement l'Angleterre, qui a vraiment fait décoller le produit. C'est eux qui l'ont... Qui l'ont vraiment beaucoup développé. Malheureusement, le gin a eu. On ne va pas parler de ça, mais voilà, ça peut être un alcool qui est très très mauvais parce que potentiellement assez peu coûteux. C'est-à-dire, si on met de la genièvre, ça devient du gin. Et on peut avoir souvent des trucs frelatés, qui a été le cas pendant un bout de temps. Mais le gin, voilà, c'est principalement de la genièvre, mais ça peut être aussi un alcool qui est très bon.
D'accord. C'est à base de quoi le gin ? Donc, c'est le...
Principalement de la genièvre, mais voilà, ça s'est complexifié avec le temps. Je n'ai pas été très clair dans mon explication, je vais reprendre un petit peu là-dessus.
Vas-y.
J'ai senti que je me perdais, ça doit être la chaleur aussi. Le gin a une particularité que j'aime beaucoup, en fait, c'est que c'est un alcool qui est très versatile. Si on prend du rhum, par exemple, on a une base de travail qui est la canne à sucre. Et la gamme organoleptique, c'est-à-dire le potentiel de goût possible, sera orienté sur la canne à sucre. On ne pourra pas faire quelque chose qui ressemble à du grain. De la même manière avec du whisky. On ne pourra pas avoir d'autre goût que celui du grain, justement. Le gin, lui, il a cette capacité, que ça soit justement en termes d'ingrédients à choisir, mais aussi de législation, parce que la législation nous impose un cahier des charges assez précis. Et bien, on va pouvoir avoir beaucoup d'ingrédients qui vont lui donner des capacités très, très différentes. Par exemple, j'en ai un qui a gagné la médaille d'or, qui est au thé vert jasmin, mandarine, bergamote, très floral et très fruité, et un autre qui est beaucoup plus rond, beaucoup plus chaud, lui à base d'épices. Donc voilà, on a une gamme qui est très versatile et qui est très intéressant à travailler pour le coup.
Ok. Bon, donc tu fais du gin, tu as plusieurs gammes de gin. Bon, en même temps, tiens, moi je vais aller regarder, je vais faire comme les gens là, je vais aller sur Internet. C'est comment ? C'est Brasserie 11, Distillerie 11, c'est ça ?
Distillerie 11, tout à fait.
Distillerie11.fr en un seul mot. Explorer les saveurs. Alors effectivement, avez-vous plus de 18 ans ? Ça dépend des jours, mais aujourd'hui, oui. alors déjà, on va le dire, c'est joli. Oui, tu vois, là, on voit très, très bien, si vous allez sur la brasserie, sur distillerie11.fr, on voit déjà qu'il y a un travail visuel qui a été fait. Toutes les bouteilles, en fait, il y a le logo est repris, il y a la barre verticale, il y a une déclinaison et autres. Enfin, quand on voit une bouteille, on sait qu'elle vient de chez toi. Donc, en fait, tu as travaillé l'identité de tes produits aussi.
Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Chaque bouteille a quelque chose à raconter. Chaque étiquette, il y a un petit fil rouge, comme tu peux le voir, que ça soit dans les noms, que ça soit dans la les thématiques. C'est souvent des botaniques, c'est souvent du floral par apport personnel, hein, parce que c'est des choses que j'aime bien, mais aussi par rapport potentiellement aux ingrédients, etc. Le premier gin que tu verras, qui s'appelle La Base. Parce que c'est aussi la base des deux autres, un nom bien spécifique et le visuel est un baobab qui donne justement cette idée de base. J'hésitais entre un pilier ou quelque chose comme ça, j'ai préféré le végétal avec ce baobab qui te donne justement cette impression d'ancrage et de base, quoi, de base solide.
Alors, le gin, effectivement, gin, tu en as quelques-uns. Si je vais là sur la boutique, tu as trois gins, c'est ça, hein, le London Dry, le thé vert. Donc un qui est au thé, un qui est épicé et puis un qui est nature, on va dire.
C'est ça. Dans la grande tradition de London Dry Gin, l'idée c'était que justement les gens puissent retrouver, pas être trop perdus par des recettes non plus qui soient trop originales ou trop éloignées de ce qu'ils peuvent attendre. Donc il m'en fallait un qui soit une base comme ça, voilà.
Ah oui. Alors là, on voit celui qui est médaille d'or du concours 100% dégustation de Lyon 2026. 11 de thé, floral et frais. L'avis du jury, en fait, un splendide nez poivré, girofle, eucalyptus et herbes fraîches tapisse nos narines et nous emmène dans l'univers du noble végétal. Il exprime une grande finesse et une bouffée de chlorophylle. La bouche confirme en sus des saveurs de badjan et de cardamone gastronomique. Un gin fin et complexe, très équilibré et d'une finesse redoutable, servir seul simplement avec quelques zestes d'agrumes. Moi, je dis, il faut boire. Voilà. C'est important. Quand on lit des choses comme ça, n'oubliez pas de vous hydrater pour... voilà. Bon, concrètement, on sait que c'est un verre d'alcool, un verre d'eau hein, pour s'hydrater. Normalement, il faut alterner un petit peu les deux. Mais quand on a un produit artisanal comme ça, il faut le dire. Alors, pour un breton, effectivement, c'est assez rare. Il y a aussi un rhum. Vous avez un rhum blanc traditionnel.
Tout à fait. Le rhum, deux grandes catégories, rhum agricole, rhum traditionnel. Rhum agricole va être fait à partir de canne à sucre fraîche. Mmh. Après pressage de la canne à sucre, on va obtenir le premier jus qu'on appelle le vézou. Et malheureusement, ce vézou qui est excellent gustativement et je pense produit les meilleurs rhums au monde actuellement, n'est pas transportable parce qu'il va fermenter naturellement en quelques heures.
D'accord.
D'où l'impossibilité dans la métropole et dans les zones qui ne sont pas les zones, dans les zones tempérées, la canne à sucre ne pousse pas. Donc, on est on travaille uniquement la mélasse. La mélasse voilà. Qui a mauvaise réputation, parce que souvent, c'est un produit qui ne coûtait pas cher et qui a été distillé à outrance. Et de manière... le but était recherché, était le sous et pas la qualité. Et donc, on a beaucoup de rhums traditionnels qui ne sont pas bons. Mais un rhum traditionnel avec de la bonne mélasse peut être également très intéressant gustativement si c'est fait de manière raisonnée. J'espère que c'est le cas.
Alors, il y a une montée actuellement de la demande sur les rhums. Personnellement, moi, je suis un fan du Don Papa, qui est un rhum qui vient du Philippines, qui est très, très joli. Mais on voit arriver dans les magasins le rayon rhum, d'ailleurs, qui s'élargit, qui s'agrandit régulièrement, y compris chez Lidl, avec des rhums qui deviennent presque des rhums arrangés. Donc, il y a le rhum, peut-être que tu as un créneau à prendre là, si tu regardes le Don Papa et les autres, les gens sont à la recherche de ce goût de fût de chêne qu'on peut recréer avec des copeaux, de caramel, d'épices et autres. Ça se vend beaucoup, il y a une demande qui vient sur ça. Je pense que les gens ont été déçus dans le marché des alcools par des choses qui étaient relativement chères et puis qui n'avaient pas forcément beaucoup de goût, qui étaient un peu alcool à brûler ou qui n'étaient pas très subtiles. Je pense que beaucoup de produits comme le whisky et autres se sont décrédibilisés, tu vois, en fait, en vendant des choses.
Alors nous, concrètement, on est aussi un pays producteur historique de rhum.
Oui, les Antilles, bien sûr.
On a une histoire assez particulière avec ça. Que ce soit repartir sur tout ce qui a été la colonisation de ces îles, etc. Mais concrètement, voilà, le rhum est aussi quelque chose qui arrive en métropole, encore une fois, avec des ingrédients ou des produits finis qui sont pas de très, très grande qualité. Souvent, on va rectifier ça avec des petits passages en fût, même des ajoutions d'édulcorants, de colorants potentiellement caramel. On sait que plus on met de sucre, en général, plus ça plaît aux gens. Ça donne pas forcément des choses très intéressantes. Par contre, il y a quelque chose qui est très, très sympa en train de se passer dans le monde du rhum, ce qui a été fait justement dans le vin, par exemple, où ils reprennent un petit peu ça, c'est vraiment la culture du terroir, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de faire des rhums qu'on appelle parcellaires en ce moment, et là, je pense que c'est très intéressant. Je suis personnellement un grand fan d'alcool blanc, parce que l'alcool blanc a mauvaise réputation, parce qu'en général, c'est un alcool qui n'est pas forcément de grande qualité, celui qu'on retrouve souvent dans les supermarchés, et on pense que quand on met dans un fût de chêne, ça va donner quelque chose de... Non, pas forcément. Un alcool blanc peut être très, très grande qualité. Je suis en train de militer vraiment pour ça. D'accord. Et les rhums parcellaires dont on parlait sont justement des types de canne à sucre spéciales qui sont dans un type de terroir particulier qui vont donner un produit qui est unique. Je donnerai, je peux faire un petit peu de pub.
Vas-y.
Il y a Longto que tout le monde connaît.
On est entre nous, on n'en parlera à personne. Vas-y. Voilà.
Longto, j'espère qu'ils m'entendent et qu'ils viendront. On pourra parler un petit peu de ça, ces messieurs de Longto. Mais je trouve qu'ils ont des parcellaires, justement, et qu'ils ont été très, très bien travaillés, avec des cannes à sucre assez sympathiques. Et on a des produits qui sont vraiment très bien et on sent des gammes uniques sur chaque produit. Et c'est très intéressant.
D'accord. Non, mais je peux entendre. Après, effectivement, peut-être qu'on a eu un petit peu trop de white spirit qui servait à décaper la peinture, alors que un alcool, normalement, est censé aussi avoir un goût raffiné, tu vois. On cherche aussi, pas uniquement l'effet, mais on cherche aussi le goût. Tu vois, parfois, le soir, devant la télé, un petit verre de rhum, avec modération, tu vois, mais gentiment, comme ça, on le déguste, ça prend un petit peu de temps, mais ça te met un parfum dans la bouche, dans le haut du ventre. On cherche des choses qui sont travaillées un petit peu, c'est intéressant ça.
De la même manière que le gin, par exemple, je pense qu'on est une génération où la plupart des gens, si tu leur parles de gin, l'estomac leur dit non, tu ne retournes pas là-dessus, parce qu'en fait, on a passé nos jeunes années à boire des trucs dégueulasse dans des bars, discothèques, je ne sais pas où vous êtes allé voir.
C'est ça, on avait l'espèce de bouteille là, rouge et blanche, et ça servait uniquement à se fracasser, il n'y avait aucun plaisir.
Je ne donnerai pas les noms pour le coup, mais
tu vois ce que je veux dire. Et puis effectivement, c'est là que je dis que les producteurs d'alcool se sont tirés une balle dans leur pied, quelque part. Et qu'il y a certaines. Tu vois, moi aujourd'hui, je quitte à mettre 30 balles dans un Don Papa ou 30 balles dans un whisky, moi je prends un Don Papa. Le whisky, c'est décrédibilisé. Le gin, c'est décrédibilisé. Visiblement, tu lui redonnes ses lettres de noblesse, mais c'est parce qu'il y a des gens avant qui ont fait un mauvais boulot.
Oui, encore une fois, je pense que c'est le système économique actuel. C'est beaucoup plus intéressant de pouvoir mettre 2-3 graines de genièvre de mauvaise qualité dans un alcool qui n'est pas terrible et d'inonder le marché. C'est quand même beaucoup plus rentable que de pouvoir en faire un de grande qualité comme ça, avec des produits bio recherchés et ce qu'on veut. D'accord. C'est la réalité aussi.
Alors, tu as aussi des créations. je vois le 11 des Magnans, spiritueux d'inspiration africaine. Ah, c'est tes années camerounaises qui ressortent là, j'ai l'impression. Et spirituel à Grenade, ou nom de Zeus. Vas-y, parle-nous-en un petit peu là, parce que les deux là, ils font envie.
Alors, le 11 des Magnans, il est parti, c'était un petit exercice de style, c'est-à-dire qu'après quelques mois passés dans la distillerie, que je voyais que je commençais à bien maîtriser mon sujet, j'ai voulu m'amuser à créer un alcool qui était le plus complexe possible avec le minimum d'ingrédients, c'est-à-dire de maximiser vraiment les interactions entre les ingrédients. Il était parti comme un petit délire perso, pas fait pour partir à la vente. Et finalement, bah, mes cobayes, parce que j'ai beaucoup de cobayes volontaires, hein, faut savoir que les distilleries ont toujours des cobayes volontaires assez nombreux qui gravitent autour. Donc, quand il y a des petites nouveautés, bah, on va tester un petit peu avec ces gens-là qui m'ont dit « Non, celui-là est vraiment très bien, il faut le sortir. » Donc concrètement, voilà, j'avais envie de faire quelque chose qui soit principalement africain. Donc il y a quatre ingrédients qui sont tous de l'Afrique. À savoir le rooibos, le gingembre, la maniguette et l'hibiscus.
Alors le rooibos, qu'est-ce que c'est ?
Rooibos, c'est une plante qui est comparée avec laquelle on fait des infusions.
Tout bête. D'accord.
C'est un petit buisson qui a fait ses petites feuilles très très particulières et qui va donner un petit goût terreux, limite vanillé en attaque au produit, qui est assez sympathique.
D'accord.
Après, on a la maniguette que j'affectionne particulièrement, maniguette qui a plusieurs noms, on appelle ça aussi graines de paradis ou poivre de Guinée. En gros, ce sont les graines d'une fleur, assez jolie par ailleurs, assez grosse, qui sont à un côté très poivré et qui donnent un équilibre au spiritueux que j'aime beaucoup. Elles harmonisent souvent les macérations et les distillations. Donc là, j'avais envie qu'elle soit assez prépondérante par rapport à ce que je mets d'habitude dans les autres recettes.
Idéal pour une dégustation pure, sur glace ou comme base de cocktail originaux, ce spiritueux est une invitation à l'évasion et à la découverte, parfait pour les amateurs de saveurs exotiques et sophistiquées. Ah, ça sent le bon début de soirée, ça. La bonne fin de soirée aussi, d'ailleurs. Il y en a un deuxième à la grenade. Alors ça donne envie. Franchement, en plus, il y a un petit teint rosé, là. Le Terzo Millenio.
Terzo Millenio, il a une histoire particulière, en le sens où Terzo Millenio, c'est une association qui existe. C'est une association que ma femme a créée avec de très chers amis, qui est basée dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, à côté de Lecce. C'est une association d'accueil de migrants, de formation tout au long de la vie, qui fait un travail, je trouve, assez remarquable, surtout par les temps qui courent. Le but, c'était de leur rendre un petit hommage, leur logo étant une grenade. C'est le logo qu'il y a sur la bouteille. J'ai demandé l'autorisation et elle a été acceptée de pouvoir justement donner le nom et le logo sur la bouteille. Mmh. Et donc voilà, le but c'était de faire, ben là on est sur une typologie un peu différente, plutôt sur un digestif de fin de soirée. Alors, imaginez, on est sur du 50 degrés.
Ah oui,
voilà.
Ah, c'est pour désinfecter là, c'est pour, voilà. Bon.
Ça reste bon quand même, mais le problème de la grenade, et je m'en suis rendu compte en faisant cette recette, c'est qu'en fait la grenade s'exprime beaucoup plus dans des degrés hauts d'alcool.
Et si elle est sucrée aussi la grenade, donc elle rajoute du degré d'alcool.
Non, pas du tout, parce que là, il n'y aura pas de fermentation de la grenade. En gros, on va faire macérer, la recette se décline comme ça, on va faire macérer de la grenade fraîche, pour le coup, de petits producteurs andalous. Normalement, bientôt, elle viendra des Pouilles aussi, mais pour l'instant, c'est d'Espagne, très bonne qualité, toujours en bio. Donc, grenade fraîche avec de l'hibiscus.
À ta connaissance, c'est que du bio et de l'équitable. Hein, donc,
tant qu'à faire, effectivement. Voilà. Et le plus traçable possible. Et après distillation, on va laisser reposer avec de la baie de Tasmanie. La baie de Tasmanie étant un faux poivre qui apporte un côté piquant assez sympathique, voire limite anesthésiant sur la langue, c'est assez étonnant. Et ce côté, il a un pouvoir colorant aussi assez sympathique, justement pour rappeler un petit peu le sirop de grenadine, cette couleur rosée, orangée.
Bon, ça se teste tout ça, hein. Il faut tester. Alors, il y a aussi des créations, des liqueurs, on arrive sur des choses qui sont un peu plus liquoreuses, c'est-à-dire un peu plus sucrées, un peu plus épaisses, un peu moins liquides. On est quand même à 24% d'alcool, là, ça reste raisonnable. Hein. Je vois l'After 11 liqueur, choc d'essence, brise mentholée, profonde comme un cacao noir, avec une touche subtile de piment d'Espelette. Oh, ça donne envie, hein, en apéritif ou en digestif. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui t'a... Pourquoi les liqueurs ? Pourquoi tu as rajouté comme ça
Pourquoi les liqueurs ? Facilité, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est très vendeur, mais c'est la vérité. Une liqueur se fait assez, assez rapidement en termes de production. Hein. Pas forcément la recette en elle-même, mais la production est assez rapide. L'idée étant de travailler uniquement du produit frais, en tout cas le plus possible. Bien sûr, cacao et piment d'Espelette pour celui à la menthe et, sont séchés, mais la menthe est fraîche d'un petit producteur à côté de la distillerie, toujours en bio, une menthe marocaine qui va donner justement, avec une macération courte, mais avec une grosse, grosse présence de la matière première, quelque chose de assez frais et qu'on reconnaît tout de suite. De la même manière que l'autre liqueur est faite avec uniquement des botaniques fraîches, pareil, pour vraiment exalter le produit brut.
Alors effectivement, ton dernier produit, c'est l'esprit du pho. Pho, j'ai regardé, c'est un nom qui vient du Vietnam.
Tout à fait.
Donc tu as fait une liqueur avec une tradition vietnamienne et créativité artisanale française. Pareil, en apéritif décalé ou en base de cocktail. Oui, parce qu'en fait, les alcools, ils se prennent bruts ou alors, effectivement, on fait des mélanges avec des jus et d'autres ingrédients.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, je pense que c'est très français de penser que c'est péché de mélanger, de réduire ou de transformer un produit de qualité comme spiritueux, par exemple, on va dire rhum ou whisky. En fait, ce qui est péché souvent, bah, c'est de mettre du Schweppes dans un bon gin.
Ou de boire du vin dans des canettes de coca, pour faire un petit clin d'œil aux amis américains. Là, c'est des choses, voilà, c'est particulier, c'est ça. Voilà, ça c'est péché, ça.
Bon, choisit des bons ingrédients qu'on met ensemble, on obtiendra potentiellement quelque chose de très bien aussi.
Ok, donc tu as 8 produits. Tu as 8 produits, là on a entendu, effectivement, tu les as conçus, il y a de la passion, tu as des résultats, tu fais des trucs qui sont super bons, tout le monde le dit, tu as eu des prix et tout. En une minute, là, comment tu distribues tes produits ? Tu les vends sur Internet, tu as des partenaires, comment tu fais ?
Tout à fait, tout à fait. Principalement en direct. Moi, c'était vraiment mon plaisir, c'est de pouvoir aller à la rencontre du consommateur final, expliquer qui on est, pourquoi on fait ça, comment on le fait. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'inonder Internet ou autre chose. Des caves sélectionnées. Je ne veux pas dire que je sélectionne mes caves non plus, parce que je travaille avec celles qui ont bien envie de travailler avec moi également, hein, mentir. Mais voilà, des gens, on se dit, je ne suis pas un produit parmi tant d'autres, mais qui ont un intérêt à l'histoire de la distillerie, au produit.
Non, mais tu as un certain nombre de restaurants de partenaires, là, un restaurant le 220 à Névez, dans les Voiles de Quimper, la cave du Moros à Concarneau, brasserie. Donc en fait, tu fais aussi distributeur, donc tu as des points de vente, mmh. Et donc tu gères des distributeurs, c'est une partie du travail. Et je vois qu'à la fin, tu as aussi prévu ce qu'on appelle le spiritourisme. Tu peux éventuellement héberger les gens dans la distillerie 11, leur montrer comment tu travailles et ils peuvent, sur mesure, tu peux faire aussi des activités locales.
Tout à fait. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai été très longtemps justement à gérer des groupes et des activités de par le monde. Et ça m'est resté un petit peu justement cette volonté de pouvoir être avec les gens et leur transmettre un savoir, leur montrer comment ça fonctionne. Okay. Donc là, en gros, sur une journée, on fait des activités de distillation où ils vont faire leur propre spiritueux de A à Z jusqu'à l'extraction en bouteille.
Ok, eh bien écoutez, c'était Marien Beaugrand, vous ne rêvez pas, c'est son nom de famille, Beaugrand, c'est comme ça, voilà. Ça ne s'invente pas d'ailleurs, hein, on vient avec, c'est la Distillerie 11, c'était un peu de Bretagne pour nous, c'est pas tous les jours qu'on a une médaille d'or à un concours international, je répète, distillerie11.fr, Marien, merci de nous avoir consacré cette demi-heure.
C'est moi, merci beaucoup.
Et à tous les auditeurs, à la semaine prochaine, ne bougez pas, la suite des programmes sur RLP.
RLP Business. RLP.
Radio Libre en Périgord.